Mondo Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous.
Parole de femme.
Nous sommes avec Edith Marlise Adjanohon, coach en développement personnel au Bénin, conférencière en motivation, fondatrice de l'IS Coaching, présidente du réseau mondial des femmes d'impact, vice-présidente de la Fédération africaine du coaching. Merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde au Féminin de VOA Afrique.
Bonjour Nathalie.
Pourriez-vous nous retracer votre parcours professionnel et expliquer comment vous en êtes arrivée à pratiquer cette profession?
J'ai mon bac G2 et j'ai fait mon BTS en banque et finance et mon master en banque et finance également. J'ai eu à travailler dans beaucoup de structures et après j'ai démissionné pour être à mon propre compte. Je puis dire que j'ai fait une formation qui date de 18 ans. Mais j'ai commencé à exercer le métier de coaching il y a de cela 8 ans. Il y a 18 ans, quand j'ai fait ma première formation, j'ai d'abord étudié et mettre les outils que j'ai eus sur moi-même. D'abord, j'ai exercé le coaching sur moi-même, à éliminer certaines choses en moi, à être connecté à moi-même pour retrouver la meilleure version de moi-même. Et ce n'est qu'après ça que je me suis lancée réellement dans le coaching, en faisant encore d'autres et d'autres formations. Et là, je continue toujours d'apprendre.
L'activité que vous pratiquez ne fait pas vraiment partie des professions les plus répandues ou très connues en tout cas. Est-ce qu'il y a des écoles ou des formations professionnelles reconnues au plan académique pour devenir coach en développement personnel?
Je ne suis pas d'avis pour les gens qui disent que le métier de coach n'est pas une profession. C'est un métier comme tout autre métier. Et il a bien sûr des écoles professionnelles qui forment des coachs. Il y en a plein, que ce soit en Afrique, en Europe. Moi, j'ai suivi mes formations dans des écoles pas les moindres. C'est un métier très noble et je suis très fière d'être coach.
Vous souhaitez justement développer cette profession afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Comment vous y prenez-vous pour ce faire et quels sont les obstacles que vous rencontrez?
Le coaching existe depuis des décennies. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé et c'est un noble métier. C'est vrai que on n'a pas vite compris cela en Afrique, mais ça vient parce que le développement personnel, c'est quelque chose qui va de soi au fait. Le développement personnel est primordial dans la vie d'un être humain. Parce que en tant qu'être humain, il faut savoir qui tu es. Il faut te connaître toi-même. Tu ne te connais pas, comment tu veux connaître l'autre? Toi-même, tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu es. Donc, du moment où tu ne sais pas qui tu es, tu deviens marionnette des autres. Donc, le développement personnel s'impose à chaque être humain. C'est pour notre propre bien, c'est pour notre propre épanouissement. Nous ne le faisons pas pour X ou bien pour Y, non, nous le faisons pour nous-mêmes. Les obstacles dans ce métier sont énormes, mais nous n'avons pas peur. Nous aimons notre métier, c'est un métier qui nous passionne. Donc on n'a pas peur des challenges au fait. On avance avec les challenges parce que c'est un métier, les gens n'ont pas encore perçu l'importance de ce métier. Parce que le développement personnel s'impose à tout le monde. Ça s'impose à nous, mais les gens n'ont pas encore cerné, les gens n'ont pas encore compris. Mais nous continuons de travailler et je crois que ça ira.
À propos, Edith Marlise Adjanohon, vous êtes représentante bénin du réseau international des coachs éthiques. Pouvez-vous nous citer deux ou trois points importants en matière d'éthique dans votre profession?
Oui, effectivement, je suis la représentante bénin du réseau international des coachs éthiques qui est créé par le master coach Yuman, c'est un Ivoirien. Les trois points importants d'éthique dans notre profession, le respect, la bienveillance et la confidentialité. En tant que coach, nous devons avoir le respect pour nous-mêmes, le respect pour nos pairs, le respect pour nos coachés, le respect pour le métier que nous exerçons. Et nous devons avoir de la bienveillance envers tout le monde et la confidentialité pour nos coachés, pour des personnes qui ont confiance en nous et nous posent leurs problèmes. Nous devons garder cela confidentiellement.
Vous aimez vous présenter comme étant la madre de la positivité. Expliquez-nous l'importance de la positivité dans la vie de tous les jours et dans quelle mesure cela nous permet d'aller de l'avant.
Oui, effectivement, je m'appelle la madre de la positivité parce que j'ai tellement vécu des choses dans ma vie. J'ai tellement eu des challenges, j'ai tellement eu des difficultés. Moi, je mets ça dans les escales de la vie. Tout ceci m'a forgé à avoir un mental très fort et à toujours prendre la vie du bon côté et dans n'importe quelle situation, même si cette situation est douloureuse, j'arrive quand même à voir le bon côté dans cette situation, c'est-à-dire j'arrive à voir ce qui est positif, même dans ce qui m'arrive, qui est bon dedans et puis je continue. Je crois que en tant qu'être humain, nous devons cultiver en nous la positivité. Parce que la positivité, ce n'est pas que tu n'auras pas des problèmes. La positivité, ce n'est pas que tu ne vas pas rencontrer des difficultés, tu n'auras pas de challenge, c'est pas que tout ira bien, non. C'est que la positivité, même dans les tempêtes quand même, tu arrives à continuer, à braver et à aller de l'avant, à toujours prendre ce qui est positif dans ce qui t'arrive. Moi, je suis très positive.
Pouvez-vous nous expliquer quels sont les profils que vous traitez et qu'est-ce qu'on vous demande généralement quand on vient vous consulter?
Moi, je suis experte en potentialité humaine. C'est-à-dire, je reste dans mon couloir, je ne suis pas coach matrimonial, je ne suis pas coach en affaires, je ne suis pas coach en business. Donc, si je rencontre des coachés qui ont besoin de ça, je les oriente vers les coachs qui sont expérimentés en cela. Moi, je reste dans mon couloir. Je ne divague pas et je ne vais pas dans tous les sens. Je fais ce que je peux faire. Quand on vient vers moi, il y a un processus. Il y a d'abord l'écoute. Je suis très attentive. J'écoute la personne jusqu'au bout pour pouvoir comprendre et savoir ce que la personne veut. Et là, maintenant, je mets la procédure de suivi en place. Quant à la personne, si la personne accepte, on commence. Et j'ai toujours l'habitude de dire à mes coachés, je n'ai pas un bâton magique pour changer la vie de qui que ce soit. Moi, je vous accompagne, je vous donne les outils, mais le changement viendra de vous-même. C'est vous-même qui allez décider, faire sortir ce talent et ses potentialités enfouies en vous.
Vous avez mis sur pied votre cabinet au Bénin et vous avez élargi le concept dans d'autres pays. Donc, vous travaillez avec une équipe. Expliquez-nous tout ça.
Oui, c'est vrai, j'ai mis mon cabinet sur pied. Ça fait 8 ans, mon cabinet est au Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée. Et je compte élargir dans d'autres pays également. Oui, j'ai une équipe très dynamique. Je travaille beaucoup en ligne. Je fais des réunions en ligne. Je fais beaucoup de choses en ligne parce que vous voyez, je peux pas être en même temps au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun et en Centrafrique. Donc, je travaille beaucoup en ligne. On n'a pas encore atteint les objectifs, mais on est en train de se battre quand même pour essayer, avec la grâce de Dieu, nous allons atteindre les objectifs.
Edith Marlise Adjanoun, quel est l'objectif du Réseau mondial des femmes d'impact et pourriez-vous décrire sa composition?
Oui, le Réseau mondial des femmes d'impact, c'est un travail qui a commencé depuis plus de 15 ans. C'était pas un réseau, c'était un groupement de femmes. Et nous avons travaillé ensemble depuis des années. Et il y a 4 ans, c'est devenu Réseau africain des femmes d'impact. Et je me suis dit, pourquoi limiter les femmes? Et c'est là, l'année dernière, c'est devenu Réseau mondial des femmes d'impact, qui est aujourd'hui dans 24 pays. L'objectif d'abord du réseau, c'est d'amener les femmes à changer de mentalité, à comprendre que nous devons cesser d'être la louve pour l'autre femme, d'être l'ennemi de l'autre femme. Nous devons cesser de nous donner des coups qui n'en valent pas la peine au fait. Et prôner pour la vraie solidarité féminine. Ce n'est pas la solidarité que nous voyons dans l'hypocrisie où les gens, on ne s'aime pas, mais on se voit, on sort les dents et après c'est les catastrophes. Non, nous prônons pour cela. Et amener l'autre femme à accepter l'autre femme, à voir ce qui est bon dans l'autre femme pour pouvoir prendre ça là. C'est mon combat, c'est le combat du Réseau mondial des femmes d'impact. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, mais vouloir, c'est pouvoir.
Êtes-vous en mesure de remarquer aisément les potentialités d'une personne qu'elle ne pourrait déceler elle-même? Et comment vous y prenez-vous pour qu'elle parvienne à débloquer ce potentiel?
Oui, bien sûr, bien sûr. Déceler les potentialités d'une personne, il suffit quand même de bien observer la personne, d'échanger avec la personne. Vous allez voir que cette personne peut faire ci. Cette personne a un talent dans ci, dans ça. Il y a des gens même qui n'arrivent pas, qui ont du mal à déceler ça. Et je les aide, je leur dis, mais est-ce que tu sais que dans telle chose, quand j'ai échangé avec toi maintenant, tu sais que dans telle chose, tu peux prospérer. Si tu fais ci, si tu fais ça, ça peut aller pour toi. À toutes les personnes à qui j'ai dit ça, je n'ai pas encore eu un retour négatif jusqu'à aujourd'hui.
Vous êtes promotrice de l'émission Dans la peau de l'autre. Un mot sur ce programme?
Mon émission Dans la peau de l'autre, c'est une émission que j'ai initiée pour quand même valoriser toutes les personnes qui font des métiers et on sous-estime ces métiers-là. Ma première édition, je me suis mise dans la peau d'une vendeuse d'eau dans les feux tricolores. C'est-à-dire que moi-même, je suis allée vendre l'eau et j'ai ressenti ce que ces dames-là ressentent quand nous sommes dans la voiture et on dit « vendez-moi de l'eau » et ces dames-là tardent, nous jetons l'argent. Tout ce que ces dames-là subissent et nous les traitons très mal, j'ai subi cela. Et cela a été une très belle expérience pour moi. Maintenant, la deuxième édition, je me suis mise dans la peau d'une jardinière. C'est-à-dire que je suis allée dans le jardin, j'ai enlevé les mauvaises herbes, j'ai vendu de la salade. C'est-à-dire que je me suis mise dans la peau d'une jardinière et cette expérience aussi, ça m'a vraiment fait du bien. Et là, je suis en train de préparer la troisième édition qui sortira bientôt.
« votre expertise s'adresse en particulier aux femmes. Que pourriez-vous conseiller à celles qui voudraient entreprendre ou réaliser de grands projets mais qui se sentent bridées parfois par leur environnement culturel ou familial?
Ce que je voudrais dire aux femmes, de ne jamais se décourager. Il faut jamais se décourager, il faut jamais désespérer dans la vie. Il faut se battre pour atteindre ses objectifs. C'est vrai, rien n'est facile. Nous allons rencontrer des challenges, mais il ne faudrait pas que nous soyons découragés par ces challenges-là. Au contraire, que ces challenges-là soient des éléments de motivation pour nous et que nous avancions. Et que nous n'ayons pas peur de l'échec. Quand tu fais quelque chose et tu ne tombes pas, tu ne sauras pas comment tu vas te relever encore. Tomber, c'est pas le problème, mais il faut savoir se relever. J'exhorte toutes les femmes à entreprendre, surtout à être autonome financièrement. C'est très important à la femme d'être autonome financièrement. C'est très important pour l'épanouissement de la femme.
Edith Marlise Adjanohon, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel au Bénin. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour Le Monde au Féminin de VOA Afrique.
Merci infiniment pour la considération. Merci.
Au Bénin, la lutte contre le travail des enfants ne donne pas encore les résultats escomptés, malgré l'existence d'un arsenal juridique sur leur protection. Au lieu d'aller à l'école, certains mineurs continuent d'être exploités sur les chantiers de construction, au marché et dans les ménages, explique notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé, dans son reportage.
La banalisation du phénomène du travail des enfants par certains adultes au Bénin est en totale contradiction avec le Code de l'enfant voté depuis 2015. Sœur Triana Borsani fait partie de la congrégation des sœurs salésiennes de Don Bosco. Depuis de nombreuses années, elle se bat pour protéger les enfants.
En regardant les enfants qui travaillent au Bénin, il y en a trop. Et la population, les gens, je dirais aussi au niveau civil, on est trop habitué de voir les enfants qui travaillent. On ne se pose plus la question, mais cet enfant-là, pourquoi il est là? Il doit être à l'école, il doit se préparer. Aussi, une question comme, mais ce travail est adapté à l'enfant ou pas? C'est pas trop lourd, c'est pas trop jeune pour amener des poids si lourds. Ces questions, on ne se pose pas.
En dehors des travaux familiaux traditionnels, les enfants sont employés comme domestiques pour faire du petit commerce ou sont envoyés sur des chantiers pour des travaux dangereux dans les domaines de l'agriculture, la maçonnerie, la soudure et autres. Jeanne Laroy se bat elle aussi depuis de nombreuses années pour donner un autre destin aux enfants placés dans les ménages.
Ces enfants passent sous nos yeux, vous et moi, et nous les regardons sans pouvoir rien faire. Même devant les commissariats, on les voit avec des tas d'ignames. L'enfant peut être à peine 12 kilos de poids et porte plus de 20 kilos. C'est vraiment dramatique. Et moi, j'en appelle à la responsabilité politique parce que les ONG à elles seules ne peuvent rien faire.
Selon les résultats de l'enquête réalisée par l'INSTAD, le taux de prévalence nationale en matière du travail des enfants est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022. Malgré cette avancée, le phénomène reste tenace en milieu ouvrier.
Pour apprendre chez nous, il faut avoir au moins 16 ans. La majorité sont allés à l'école, au moins le niveau 3e.
Dans notre organisation professionnelle, nous vulgarisons ça et nous encourageons les patrons d'ateliers, d'instituts, de ne pas prendre moins. Le minimum, c'est quand même l'acte de naissance. Et sur l'acte de naissance, on peut bien voir l'âge de l'individu.
Au sein de la population, tout le monde se dédouane ou ferme les yeux devant le phénomène.
On doit laisser les enfants aller à l'école. À certains âges d'abord, avant de les proposer, parce que souvent, c'est le milieu ou l'encadrement des enfants qui fait que les enfants bifurquent souvent dans des domaines où c'est les parents même qui les poussent.
Ces enfants sont maltraités. Moi, j'exhorte les parents à bien encadrer leurs enfants, leur laisser le choix de faire ce qu'ils veulent.
Au Bénin, le travail des enfants constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme. Esther Diossa est administratrice de l'action sociale.
L'enfant ne doit pas travailler avant l'âge de 14 ans minimum. Il faut nécessairement qu'il ait 14 ans et qu'il ait eu quand même à finir le primaire, c'est-à-dire faire de la maternelle jusqu'en classe de CM2. Il peut obtenir le CEP ou non, mais avant qu'un enfant ne travaille, il faut ces préalables-là. Et il ne doit pas vendre, il ne doit pas servir de vendeur. On ne doit pas le contraindre à faire des activités contre sa volonté, par exemple l'obliger à aller s'asseoir dans une boutique ou bien aller vendre dans les marchés.
Le Bénin ambitionne d'atteindre l'objectif de développement durable en matière de travail des enfants et devra prendre des mesures immédiates pour éliminer les pifomes de travail des enfants d'ici 2025. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Togo, les initiatives pour développer les activités génératrices de revenus pratiquées par de nombreuses femmes se multiplient afin de leur permettre une certaine autonomisation et de faire reculer la pauvreté dans les milieux ruraux. Dans le village de Momé-Katioé, dans le sud du pays, le projet Appui aux femmes transformatrices de noix de palmiste a amélioré la vie de milliers de femmes productrices de l'huile rouge. Grâce à des équipements modernes de transformation de noix de palme, la production, le rendement et les conditions de travail sont nettement meilleures. Une mécanisation indispensable aujourd'hui pour éradiquer certaines pratiques artisanales très pénibles. Notre correspondant Kossi Woussou est allé à la rencontre de ces femmes organisées en coopérative.
Dans la salle des machines construite grâce au projet d'appui aux femmes transformatrices de noix de palmiste, Dame Dojome Adjovi, productrice de l'huile rouge à Momé-Katioé, montre fièrement les matériels qui permettent aux femmes de sa localité de ne plus connaître des difficultés dans leur travail.
La production de l'huile de palme est l'activité principale de la majorité des femmes de notre localité. Mais ce n'était pas simple. Vous imaginez une seule personne traitant un tonneau de noix de palme. Cela prend plusieurs jours. Il faut piler au mortier ou y aller avec les pieds. Parfois, nous faisons appel à nos enfants pour nous aider. C'était pénible.
Désormais, c'est un lointain souvenir pour Dojome Adjovi et les autres femmes productrices avec les matériels modernes comme les malaxeurs extracteurs d'huile rouge motorisée, le cuiseur de noix de palme, le concasseur de noix palmiste électrique et autres presses huile palmiste électrique qui leur ont été fournies.
Nous avons été formés pour la maîtrise des machines et nous travaillons sans problème. Avec ces équipements, le travail est plus facile et très rentable. Une seule journée suffit pour sortir des dizaines de bidons d'huile de 25 litres. Le projet a considérablement amélioré nos conditions de vie et de travail.
Organisé en coopérative avec un conseil d'administration et ayant goûté aux bienfaits des réalisations du projet dont l'électrification du village, les femmes productrices d'huile de Momé-Katioé en veulent plus pour la plénitude de leur bonheur.
Le plus gros problème que nous avons ici, c'est la disponibilité de l'eau. Nous voulons que le projet nous aide à avoir un forage. Ça va nous faciliter la tâche.
Comme nous produisons déjà de l'huile, moi je voudrais qu'on nous forme à la fabrication du savon. Ça va nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires.
Assimiou Rahim Alimi, le coordonnateur national du projet, salue l'implication exemplaire des femmes de la communauté de Momé-Katioé et affiche sa volonté d'en faire plus pour elles.
Ici à Momé-Katioé, on sent de la volonté, on sent l'engagement et vous voyez même toutes les ambitions qui sont formulées. Pour la communauté de Momé-Katioé, c'est un modèle pour nous et je crois que les doléances ou les besoins qu'ils expriment ne peuvent pas constituer des problèmes, je crois qu'on les accompagne.
Selon Assimiou Rahim Alimi, la gestion du projet par les femmes de Momé-Katioé doit être prise comme un exemple pour les autres communautés. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Merci beaucoup d'avoir écouté Le Monde au féminin de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.